Place Info.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition des Informés, nouvelle saison, nouvel épisode, que sais-je. C'est vrai qu'il y a effectivement un petit côté série, un petit côté feuilleton de l'actualité que viennent harponner tous les soirs quatre commentateurs de talent tels des capitaines Ahab à l'attaque de Moby Dick. Et je vais vous les présenter tout de suite, ces quatre petits génies de l'info. Saverio Rojek, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique, à côté de vous, faut-il le présenter, Paul Naon.
Bonsoir.
Bonsoir Paul Naon. Ancien directeur des rédactions de France 2, de France 3, cofondateur d'Envoyé Spécial. N'en jetez plus. Bonsoir Gilles Bernstein.
Bonsoir Olivier.
Impressionné par la présence de Paul Naon. Vous avez bien raison.
France Télévisions, tout le monde.
Éditorialiste politique à France Télévisions. Et puis un petit nouveau, un French Doctor. On est très heureux de vous accueillir, Éric Gesson.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'ONG La Chaîne de l'Espoir, cette ONG qui ouvre des hôpitaux un peu partout dans le monde, à Kaboul, au Mali, au Cambodge. Vous publiez un livre en cette rentrée, L'arrogance du bistouri, où vous jetez un regard relativement critique sur votre métier de chirurgien qui donne des coups donc de bistouri, mais aussi des coups de griffe. Soyez les bienvenus dans Les Informés. Vous avez le casting. Allez, c'est parti pour une heure de débat. Et on commence par cette grève surprise à la SNCF qui, en ce week-end de départ de vacances de Toussaint, a mis un beau bazar dans les gares. Les cheminots ont en fait exercé leur droit de retrait à la suite d'un accident de TER dans les Ardennes, estimant que la sécurité n'était plus assurée sur le réseau. Alors de son côté, Édouard Philippe, ça commence à dénoncer une grève sauvage. On l'écoute.
Un détournement du droit de retrait, d'un détournement d'un droit syndical que je respecte parfaitement, mais qui n'est pas mis en œuvre et qui s'est transformé en une grève sauvage.
Une grève sauvage. Cette grève, c'est un scandale pour vous, Saverio Rojek ?
Je ne sais pas si c'est un scandale, mais grève sauvage, je dirais plutôt oui, puisque il y a 1,5 million de Français qui n'ont pas pu voyager, qui n'ont pas pu prendre le train ce week-end. Depuis la loi sur le service minimum qui date d'il y a une dizaine d'années, je crois, les conducteurs, les agents de la SNCF qui veulent effectivement faire grève doivent se déclarer 48 heures avant. C'est cette loi donc sur le service minimum. Ça n'a pas été le cas. Alors bien sûr, aujourd'hui, les agents qui ont fait grève nous disent ce n'était pas un droit. On a exercé un droit de retrait pour des raisons de sécurité.
Ouais.
La justice, l'inspection du travail tranchera. Néanmoins, il y a effectivement 1,5 million de Français qui ont pâti de ce mouvement de grève ou pas ce week-end.
Mais avec Gesson, qu'est-ce que vous en pensez ?
Si vous voulez, moi je vais faire un peu de syntaxe. Je suis médecin, je suis chirurgien et le mot urgence, il ne faut pas le galvauder. Ce droit de retrait, il est lié éventuellement à un danger imminent. Si le danger est imminent, ce qui est tout à fait possible... Je crois que c'était mercredi matin ou midi ou après-midi. Pourquoi le vendredi, alors que l'ensemble des usagers partent en vacances et on aboutit à un foutoir généralisé, je trouve ça un tout petit peu... je trouve ça pas bien. Je trouve ça vraiment pas bien. Et je crois que les usagers, je crois qu'il y a un moment de ras-le-bol. Et deuxième chose, je crois que ça touche les TER.
Ah ben là, ça a touché tous les trains.
Oui,
hein.
TER, enfin, moi j'étais TGV. Sur le Ouigo...
Intercité.
Il y a des contrôleurs sur les Ouigo et autres. Alors, je crois qu'il faut arrêter d'utiliser les mots n'importe comment et le droit de retrait, ça doit être extrêmement précis. Sans ça, c'est. Et je vais vous dire, nous, en tant que urgentistes, chirurgiens et autres, si à chaque fois qu'une infirmière, une aide-soignante, un interne ou un médecin est agressé, si on fait le droit de retrait, alors là,
on n'opère plus personne.
On n'opère plus personne.
Gilles Bernstein.
Il y a l'appréciation qu'on peut avoir chacun sur ce conflit. Alors manifestement, mes deux prédécesseurs ont une appréciation plutôt réservée.
Oui, manifestement. Oui.
Manifestement ouais. Réservée. Moi aussi, franchement, je trouve que le droit de retrait, c'est précis. Et là, c'était ni précis, ni dans le temps, ni dans l'espace, puisqu'il y a eu des grèves partout. Mais honnêtement, juridiquement, aucun de nous ne savons rien. Et le droit...
le droit de retrait, c'est prévu par le code du travail, quand même.
Justement. Mais donc, ni vous, ni moi ne savons si ce qu'ils ont fait là est caractérisé juridiquement comme un droit de retrait. Manifestement, des tribunaux seront appelés à se prononcer, et c'est très bien. Après, on peut avoir chacun nos intuitions.
Et l'inspection du travail, ce soir, et l'inspection du travail notamment en Alsace, n'a pas estimé que ce droit de retrait était illicite.
Absolument, voilà. Donc, comme quoi, nos intuitions ne sont pas forcément, ne correspondent pas forcément aux compétences des juristes. Après, il est sûr qu'il se joue autre chose. Il est sûr qu'il y a un ras-le-bol à la SNCF avec la réforme du travail qui arrive, la fin de l'embauche au statut, les recherches d'économie. C'est sûr qu'il y avait un climat un petit peu compliqué à la SNCF. Donc, tout cela était irruptif. Ce qui est clair aussi, à mon avis, c'est que la CGT est en train de construire un rapport de force, non pas là-dessus, mais pour la grève du 5 décembre, parce que la CGT a très bien compris que le gouvernement a besoin de sa réforme des retraites, que pour ça, il est prêt à faire des concessions. Certains disent beaucoup de concessions. Et voilà, ils essayent de monter.
On va y venir,
ils essayent de monter un rapport de force pour un peu plus tard.
N'allez pas plus vite que le TER. On va y venir. Donc, mais d'abord. Paul Nahon, qu'est-ce que vous
situation très complexe. Moi, je suis très partagé sur ce droit de retrait. Ça s'est passé un mercredi matin. Le droit de retrait, c'était le jeudi, pas le vendredi, comme par hasard. Le problème, c'est que c'est la CGT qui met un coup de pression incroyable sur le gouvernement. Coup de pression, la CGT est pas très bien, elle a raté sa démonstration de force au moment de la réforme de la
SNCF. Mais attendez,
SNCF.
Quand même, je ne vais pas me faire l'avocat des cheminots, mais si, quand même, parce que vous ne croyez pas que leur inquiétude, quand ils disent qu'il y avait juste une seule personne dans ce train qui a dû faire un kilomètre et demi pour s'était blessé.
C'est pas la question. C'est pas la question. En Alsace, il y avait toujours un contrôleur,
un conducteur,
pas de contrôleur. Et depuis 10 ans, c'est comme ça. Tout d'un coup, à point nommé, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, c'est une grève politique, évidemment.
Voilà. Il a dit les choses mieux que moi, donc c'est normal que ça ait été mon chef.
Je pense qu'on va en reparler, je suis tout à fait d'accord.
Grève politique, oui.
Oui, c'est une grève politique, il faut regarder ce qui s'est passé sous un angle politique, et la réponse du gouvernement, la réponse de fermeté d'Edouard Philippe, elle est avant tout politique également.
Grève politique, ça tombe très bien, on adore la politique. Dans les informés, il est 20h10, on s'interrompt 1 minute 20, pas plus, pour faire un tour de l'info avec Maureen Suignard.
Le plan social de General Electric reste de la casse sociale. Voici la déclaration du maire de Belfort sur France Info. Réaction alors que les salariés ont accepté le plan social de la direction. 485 emplois supprimés au lieu des 792 annoncés. Ils renoncent en échange à des acquis sociaux. Des scènes de pillage, des émeutes encore au Chili et des tirs à balles réels. Le pays d'Amérique du Sud, pourtant considéré comme l'un des plus stables de la région, est bousculé par une série de manifestations. Déjà 11 morts et le président qui déclare que le pays est en guerre. L'état d'urgence est en vigueur dans plusieurs villes. Un homme en garde à vue ce soir après un accident à Bordeaux. Ce week-end, le conducteur d'une trottinette électrique, un homme de 25 ans, est mort. Le propriétaire de la voiture arrêté, mais on ne sait pas encore s'il était au volant de son véhicule au moment de l'accident. Les premiers nommés pour le Ballon d'Or sont connus. France Info vous les dévoile ce soir en partenariat avec France Football. L'américaine Megan Rapinoe, le néerlandais Van Dijk, l'international français et attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Les prix seront décernés le 2 décembre prochain. Et puis la vigilance orange aux orages, pluies et inondations à partir de demain matin 8h. L'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et Andorre sont concernés.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
C'était mercredi, dans les Ardennes, un accident de TER, 11 blessés légers et des centaines de milliers de voyageurs, 48 heures plus tard, empêchés de prendre leur train dans toutes les gares de France. On parle du droit de retrait, déclenché donc par les syndicats de la SNCF. On a écouté, il y a quelques instants, le Premier ministre Édouard Philippe. Je vous propose maintenant d'entendre la réaction de Fanny Arave. Elle est porte-parole de l'UNSA Ferroviaire. Écoutez.
Je maintiens la définition de droit de retrait, qui est un droit de retrait individuel pour une cause sérieuse, qui est l'inquiétude des agents par rapport à cet accident où un agent, comme vous l'avez dit, donc le conducteur s'est retrouvé seul et a dû parcourir 1,5 km blessé pour faire toute la signalisation nécessaire.
Voilà, Fanny Arave, porte-parole de l'UNSA Ferroviaire, Gilles Bornstein. Vous parliez d'une grève politique, véritablement?
Oui, je parlais d'une grève politique, je le maintiens, enfin je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table. Paul disait tout à l'heure, de toute façon, il n'y a pas de droit de retrait, il n'y a pas de danger, parce que ça fait 10 ans que les trains fonctionnaient comme ça, et voilà, ce qui est vrai. Mais en fait, c'est
Il y a quand même eu un accident, hein.
Bien sûr, mais c'est deux débats différents. C'est deux débats différents. Est-ce que c'est passible du droit de retrait ou pas ? Nous, on a plutôt l'impression que nous, la justice tranchera.
La justice tranchera.
La justice tranchera. Pour autant, on peut parler des conditions de travail. C'est comme, il y a un médecin à côté de nous. Aux urgences, ça fait 10 ans qu'il travaille, même plus qu'il travaille dans ces conditions-là. Puis un jour, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Donc, c'est deux débats différents. Oui, peut-être ont-ils raison de se plaindre du fait qu'il n'y ait qu'un seul conducteur. Oui, peut-être que c'est dangereux. Ce n'est pas le même débat. On peut à la fois dire que non, juridiquement, il n'y avait pas un droit de retrait. Encore une fois, ce n'est pas ce que je fais parce que je ne suis pas juriste. Et dire oui, le coût de la SNCF, enfin, la SNCF qui veut fonctionner a des coûts toujours de plus en plus modérés. Oui, à un moment, ça peut poser question.
Éric Chesson, vos petits camarades parlent de grève politique, mais est-ce que c'est si grave que cela, finalement, de faire de la politique et d'utiliser le droit de grève pour faire de la politique quand on est à la SNCF? C'est une façon d'agir, finalement.
Oui, mais enfin, si vous voulez, grève politique, moi je veux bien, mais entendons le représentant des usagers. C'est des millions de personnes qui vivent un cauchemar. Tous ces enfants qui partaient en colonie de vacances, tous ces enfants qui allaient rejoindre leurs grands-parents et autres. Il y a un moment, ça suffit. Je trouve qu'il y a un devoir de solidarité nationale et d'arrêter toutes ces revendications insupportables, parce qu'elles s'accumulent. Et je crois que l'usager, il y a un moment, si vous voulez, il se tasse, quoi. Ça devient insupportable. Il y a toujours un prétexte. Alors, plainte et complainte, je veux bien le croire, et on peut tout écouter, mais quand on emploie le mot d'urgence, moi, je trouve que ce n'est pas correct.
Ça va, Rogec. Est-ce que cette grève n'est pas pour les syndicats, et puis c'est ce que nous disaient Gilles Brandchan et Paul Nahon, une façon finalement d'ouvrir le front de cette réforme de la SNCF qu'ils ont encore en travers de la gorge, qui date du printemps dernier?
Réforme de la SNCF et réforme des retraites. Qui va venir. Je pense qu'effectivement, on peut pas juger, on peut pas analyser ce qui s'est passé, l'ampleur du mouvement de ce week-end et des désagréments que ça a causé, on vient de le dire, à des millions de Français, sans le remettre dans le contexte politique, qui est un contexte de bras de fer qui commence entre le gouvernement et la CGT, et la SNCF, et en l'occurrence la CGT au sein de la SNCF. Effectivement, le gouvernement, dès le début, on le voit, Édouard Philippe qui emploie ce discours d'ultra-fermeté dès les premières heures du mouvement, en disant c'est une grève sauvage. Sibeth Ndiaye, tout à l'heure, la porte-parole du gouvernement, qui a parlé d'un dévoiement du droit de retrait. Le gouvernement joue le mouvement contre l'opinion publique. Il le joue à dessein, parce qu'effectivement 1,5 million de personnes ont été laissées sur le carreau, voilà. Mais c'est il faut le voir à l'aune effectivement de cette réforme des retraites, de ce mouvement du 5 décembre. Et voilà, chacun essaie de montrer les muscles.
Parce
de faire
que
le 5 décembre,
à partir du 5 décembre, la RATP a décidé d'arrêter.
La CGT, donc... Juste pour terminer, la CGT voulait montrer. C'est une sorte de galop d'essai un peu ce qui s'est passé.
Exactement.
Pour la CGT. Voilà, c'est un galop d'essai pour le 5 décembre. C'est un message envoyé au gouvernement. Et le discours de fermeté d'Edouard Philippe, c'est aussi une réponse à la CGT en disant on ne va pas se laisser intimider.
Paul Nahon.
Pour les syndicats, c'est une grève illimitée, hein, le 5 décembre. Illimitée, la RATP et SNCF. Hein. Bon. Il y a un chiffre qui me paraît intéressant. Il y a une dizaine d'années, la CGT, c'était 6 millions de bulletins. Aujourd'hui, c'est 500 000. Le problème, c'est qu'ils perdent des voix à chaque élection, au profit de l'UNSA et de la CFDT.
Donc c'est une bataille syndicale.
Mais bien sûr, à l'intérieur, c'est une bataille syndicale.
C'est de la politique contre le gouvernement. Mais c'est aussi de la politique contre les autres syndicats.
À la décharge des syndicats, c'est vrai aussi que la situation est très complexe, la SNCF. Changement de statut en 2020, problème d'argent, il y a de moins en moins d'argent, problème de sécurité, on l'a vu avec Bretigny, et d'autres exemples qui montrent aussi que les syndicats n'ont pas forcément tort quand ils agitent le drapeau rouge, si j'ose dire, de la sécurité. Sauf que, vendredi, c'était jeudi le droit de retrait, pas vendredi.
Gilles Brandstein,
oui, trois choses.
Guillaume Pepy annonce des sanctions financières contre les grévistes.
Oui, il annonce que...
Il a raison.
Il a raison, encore une fois,
on verra ce que dit la justice. La justice dit que c'était pas passible, si je puis dire, du droit de retrait, il a raison. Si le droit de retrait est caractérisé, il a
donc,
pas raison.
Donc finalement, là, pour le moment, parle pour faire du bruit, parce qu'en plus, dans 10 jours...
Dans 10 jours, il n'est plus là.
Donc ça ne coûte pas cher.
Il parle pour confirmer que les temps ont changé et que désormais, les jours de grève ne sont pas payés. Je voulais dire trois trucs. Le gouvernement a peur de la RATP. On a vu le 13 septembre, la grève très massivement suivie à la RATP. Comme quelqu'un l'a dit, il pensait que la SNCF SNCF après le coup qu'ils ont pris l'été dernier en ayant fait, je sais pas, 10 ou 15 jours de grève non payés pour rien, ils pensaient qu'il n'y avait pas de problème à la SNCF. Et la CGT, d'une certaine manière, a très habilement profité de cette hypothèse du droit de retrait pour quand même faire suivre leurs salariés, ce qui a surpris le gouvernement, comme en témoigne la réaction du Premier ministre. Par ailleurs, ils ont quand même pris des risques parce que, comme vous l'avez dit, c'était des départs en vacances, il y a eu beaucoup de trains Ouigo touchés, qui sont des trains pour les gens qui ont des faibles moyens, qui sont des trains pas chers pour les gens qui partent en vacances. Et manifestement, ça a été plus impopulaire que ce qu'ils craignaient.
Ça amène ma question. Est-ce que c'est une bonne chose que cette grève pour la CGT, finalement, c'est une grève qui a été quand même globalement impopulaire, et puis ils font de la politique sans le dire. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu pour eux de faire une grève en expliquant que c'était pour défendre les retraites des Français ?
Mais c'est un avertissement
pour eux. Je laisse parler le docteur.
Excusez-moi. Alors moi, je veux répondre. Je vais répondre pour ces millions d'anonymes. Qu'ils fassent en effet de la politique, et on voit déjà ce qui nous attend le 5 décembre, et on peut le comprendre. Mais il y a quand même eu un sondage, il y a 83% des Français qui ont pensé que cette grève est un scandale. Alors 80%, 83%, c'est des pourcentages, on n'est pas habitué en France à ça. Ça prouve quand même que, trop c'est trop. Et comme certains d'entre vous, j'étais dans une gare.
Vous étiez dans un train, vous, visiblement.
Oui, mais c'est...
Comme
c'est...
vous êtes énervé, vous étiez
non,
quand même...
Je suis en train
de faire du vélo,
oui, exactement.
Chazon. Voilà. Paul Nahon.
Non, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans les réactions que j'ai entendues dans toutes les radios et toutes les télés, c'est sur ce problème des familles recomposées. À savoir que des hommes et des femmes, un mari et une femme, étaient séparés par plusieurs milliers de kilomètres et ils attendaient l'un ou l'autre l'enfant pour les vacances. Eh bien, l'enfant n'a jamais pu arriver. Ça, je trouve ça terrible. Et il y en a eu des centaines, hein, comme ça, des centaines.
Et là, vous n'êtes pas un peu dans le pathos, là, Paul
Nahon ? Non,
c'est
important.
C'est la réalité.
Non, mais... C'est un fait, effectivement. Il y a eu 1,5 million de Français qui ont été laissés sur le carreau. Ça, c'est indéniable. Maintenant, encore une fois, il faut le voir à l'aune. Je pense qu'il y a un contexte politique très particulier. Que c'était, la CGT a voulu montrer les muscles.
On a bien compris le contexte.
Les muscles.
Et à mon avis, on n'a pas fini d'en débattre aux informés d'ici le 5 décembre. On va passer à un autre sujet. Mais d'abord, 20h20, tout ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce lundi soir, c'est avec Maureen Suignard.
Le Premier ministre israélien renonce à former un gouvernement, un échec pour Benjamin Netanyahou. Après les élections législatives du 17 septembre dernier, au résultat très serré, la charge va donc revenir à son rival, le centriste Benny Gantz. Saad Hariri annonce une série de réformes. Le Premier ministre libanais se prononce aussi en faveur d'élections législatives anticipées. La classe politique est vivement contestée par les Libanais depuis plusieurs jours. Des manifestations massives, ils l'accusent notamment de corruption. Un peu plus de 300 postes conservés chez General Electric à Belfort. Le groupe prévoyait d'en supprimer près de 800. Les salariés approuvent finalement le plan social de la direction. Le ministre de l'économie s'en félicite. Sur France Info, le maire de Belfort critique une nouvelle fois les décisions du groupe. Mais notre but, c'est de sauver des emplois, dit-il. À Lyon, une plaque à la mémoire des Juifs victimes d'une rafle de la Gestapo en 1943, vandalisée, des noms rayés au marqueur noir la nuit dernière. Pour la LICRA, ceux qui ont fait cet acte sont des antisémites et des négationnistes. La Ligue va saisir la justice. Sébastien Vahamaina prend sa retraite internationale. Le joueur du 15 de France de rugby pointé du doigt après son violent coup et son carton rouge en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Match perdu par les Français.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Deuxième débat des informés ce soir, on va parler environnement. Et pour une fois, on ne va pas pointer du doigt l'industrie automobile, l'industrie pétrolière ou bien encore le secteur aérien. Non, il s'agit de mettre en garde contre l'achat et contre l'utilisation de tous nos bidules numériques. Selon une étude que France Info dévoilait ce matin, le numérique est effectivement responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Les experts affirment que ce secteur consomme 5 fois plus de ressources naturelles que le parc automobile français. Je vous propose, vous allez en débattre évidemment, mais je vous propose d'écouter d'abord l'auteur de l'étude. Il s'appelle Frédéric Bordage, fondateur de Green Heat, c'est comme ça que ça s'appelle.
Concrètement, il y a très peu d'acteurs de l'univers numérique qui sont conscients de ces impacts. D'ailleurs, souvent, on voit plutôt le numérique et la tech en général comme une solution qui va sauver le monde. Aujourd'hui, on quantifie ces impacts et c'est un 7e continent en termes d'impact. C'est un nouveau continent qui fait 3 fois la taille de la France.
Eh oui, on pensait que le numérique allait sauver le monde, Éric Chesson, et en fait, pas du tout. Le numérique n'est absolument pas l'ami de l'environnement.
Oui, je pense que c'est d'abord, on est extrêmement choqués d'entendre ça. Mais je crois que derrière tout ça, il y a d'abord peut-être une culpabilisation qui est assez classique sur ce genre de sujet. Mais moi, je voudrais bien voir la colonne plus et la colonne moins. Parce que dans la colonne plus du numérique, je pense qu'il y a énormément probablement d'économies. Je parlais simplement de mon petit secteur, et notamment à la chaîne de l'espoir. Énormément de voyages sont évités grâce à la visioconférence. Nous consultons énormément d'enfants à distance et nous ne sommes plus obligés d'aller là-bas ou de les faire venir. La télémédecine empêche le déplacement de milliers de gens âgés où on enverrait des ambulances et autres. Donc, bien sûr, prenons conscience de ce chiffre 4%, c'est absolument considérable, mais peut-être aussi,
Éric Chesson, qu'il faut garder la télémédecine et peut-être regarder un peu moins de séries télé sur son portable dans le métro, Gilles Bordstein.
Oui, je pense que Éric Chesson a raison, mais ce dont on se rend compte avec ça, c'est que rien n'est gratuit et qu'effectivement, on pensait que le numérique, on pouvait en faire autant qu'on voulait parce que, comme vous l'avez dit, ça préservait la planète. Ben non, l'immatériel, c'est matériel. Et on se rend compte que l'immatériel, c'est matériel. Alors, je crois qu'on savait tous plus ou moins que ce qui était compliqué, c'était ces immenses centres de data pour sauvegarder toutes ces données dont on sert, qui consommaient une énergie de dingue, si je puis dire. Ce dont je ne me rendais pas compte, c'est effectivement à quel point ce sont les matériels là qui sont en cause.
C'est la construction et la gestion des déchets.
Des ordinateurs qu'on change beaucoup trop souvent et des portables qu'on change beaucoup trop souvent.
Et les ressources naturelles aussi, les minerais, les métaux précieux qu'on utilise pour ça. Nos téléphones portables et ces ressources qui se réduisent.
Alors si on veut être optimiste et ravi de la crèche, on se dit que ça offre un champ fantastique pour le recyclage, qu'effectivement on ne recycle pas nos téléphones, qu'on les jette si on en a les moyens, qu'on les jette tous les 2 ans, les ordinateurs trop souvent, et que ça peut créer tout un gisement d'emplois non délocalisés. Donc que ça peut à la fois qu'il y ait
Délocaliser, les déchets, on peut les envoyer en Chine. Est-ce que ça pose pas également la question de l'obsolescence programmée quand même?
Parce que tous ces bidules,
au bout de 2 ans, ils sont prévus pour tomber en carafe.
C'est le fond du problème. Il n'y a pas que ces bidules qui tombent en carafe quelques jours après, pratiquement, ou 2 mois après.
2 ans, juste après la garantie.
Moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, et le docteur Chesson en parlait tout à l'heure, je connais un petit peu la chaîne de l'espoir pour y avoir travaillé, c'est que je vois 2 fois par semaine des chirurgiens, des médecins venir consulter des gens en Afrique sur les téléphones portables. Et avec un téléphone portable, on peut voir si le gosse est en danger de mort ou pas. Et quelle indication on peut donner pour la prochaine opération. Ça, c'est assez formidable. Dans un pays comme l'Afrique, sans oublier que, Gilles en parlait tout à l'heure, les richesses de l'Afrique pour fabriquer ce matériel sont pillées. Mais je trouve que c'est aussi intéressant, il y a le plus, il y a le moins. C'est vrai, moi j'étais étonné par le chiffre, 4%.
Bon. Ça veut rien dire, les progrès induits par le numérique et les nouvelles technologies n'obèrent pas la pollution induite également par ces objets, ces équipements. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est le côté le vertueux n'est pas si vertueux que ça en fait. C'est une sorte de pollution vertueuse. Numérique, mais qui reste néanmoins une pollution et dont il va falloir s'occuper,
tous ces ados qui nous font la leçon en expliquant faut pas prendre la voiture, il faut pas prendre l'avion et qui passent leur temps sur leur téléphone portable. On va pouvoir bien leur faire la leçon, Éric Chesson.
Moi, je pense que ce chiffre est absolument incroyable, mais j'insisterai sur un sujet sur lequel les pédiatres se penchent de plus en plus. C'est la pollution intellectuelle et cérébrale les enfants, avec la fameuse règle des 3, 6, 9, 12. Interdiction forte.
3, 6, 9, 12, ben,
c'est-à-dire que il a été très bien étudié, notamment par un pédiatre qui s'appelle le professeur Tisseron, que le numérique est extrêmement toxique pour les enfants et surtout pour les nourrissons ou les enfants en bas âge. Jamais un ordinateur au-dessous de 3 ans. Entre 3 et 6 sous contrôle, et de 6 à 12 avec un contrôle parental, et au-dessus de 12, le danger de la pornographie. Enfin, c'est, mais surtout l'interdiction totale de tout écran avant 3 ans. Car, ça a des conséquences. Je ne prendrai pas ce fameux titre de ce livre, La fabrique numérique des crétins, mais
alors, c'est... pas d'écran, vous l'avez entendu, sauf pour regarder les informés. On va laisser passer la pause. Écoutez, la météo, les infos, et on se retrouve dans 5 petites minutes pour la deuxième partie de notre émission.
Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients?
Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe.
Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger.
Bon ben, on part travailler au soleil.
Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Ouvrez les bras, détendez-vous. Dans 6 mois, vous êtes à la retraite. Respirez, sortez votre tablette et faites votre retraite sur mademandederetraiteenligne.fr. Une seule demande pour toutes vos caisses de retraite.
Mais ça simplifie la vie!
Oui, oui. Alors restons zen.
Rendez-vous sur mademandederetraiteenligne.fr. C'était un message de l'assurance retraite, votre retraite de la sécurité sociale.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison. À retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
Élodie Calac.
Attention aux fortes pluies et aux orages en Méditerranée. Demain, une vigilance orange est en cours. Un temps pluvieux concernera le sud, avec de bonnes pluies sur l'Occitanie, sur le sud de l'Aquitaine. Prudence sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault. On attend des orages parfois violents avec des pluies intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent. Après un possible affaiblissement demain après-midi, les orages reprendront de la vigueur la nuit suivante. Ce temps très agité persistera mercredi et glissera progressivement vers la Provence et la Côte d'Azur. Attention, on attend de fortes quantités de pluie sur le Languedoc-Roussillon. En 48 heures, on pourrait atteindre 150 à 200 mm, parfois jusqu'à 300. Le vent de sud-est gênera l'écoulement des eaux vers la mer. Plus au nord, ce sera calme. Demain, gris le matin, plus lumineux l'après-midi, mais souvent bien nuageux. Il fera 12 à 19 degrés, encore 24 à Nice et 29 à Ajaccio.
20h30 sur France Info. C'est avec Olivia Chandiou. Bonsoir Olivia.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Le Premier ministre israélien renonce à former un gouvernement. Benjamin Netanyahou l'annonce ce soir sur son compte Facebook après les élections législatives en Israël dont les résultats étaient très serrés. Il disposait de 28 jours pour présenter un nouveau gouvernement. C'est donc raté et ce n'est pas vraiment une surprise, Alice Froussard.
Bis repetita pour Benjamin Netanyahou, c'est le même scénario que lors des dernières élections. Impossible de former une majorité avec ses alliés habituels, les partis religieux et la droite nationaliste. Le gouvernement d'union nationale dont il rêvait n'a pas abouti non plus, alors l'actuel Premier ministre renonce le jour de son 70e anniversaire à la formation d'un gouvernement. Il rend au président israélien le mandat dont il avait hérité après les élections de septembre et c'est son rival Benny Gantz qui aura la lourde tâche de réunir les 61 sièges nécessaires à une majorité. Il est temps de passer à l'action, a annoncé le leader du parti centriste blanc-bleu dans un communiqué juste après l'annonce. Mais là aussi, la tâche s'annonce ardue et c'est l'hypothèse de nouvelles élections en Israël qui se profile de plus en plus.
Précision d'Alice Froussard à Jérusalem pour France Info. Alors que la trêve expire demain en Syrie, Ankara annonce mettre en place une zone de sécurité de 120 km de long au nord du pays. Cette mise en place doit commencer donc demain et dépend du retrait des forces kurdes. L'offensive turque en Syrie a poussé 300 000 civils à quitter leur foyer. L'interminable feuilleton du Brexit, suite et suite. Il n'y a pas eu de vote sur l'accord entre Londres et Bruxelles aujourd'hui. Un accord qui doit permettre la sortie du Royaume-Uni de l'UE le 31 octobre. octobre. Mais le président de la Chambre des communes britannique a donc refusé de le soumettre au vote aujourd'hui. Un homme placé en garde à vue à Bordeaux après un accident mortel de trottinette électrique dans la nuit de samedi à dimanche. Un jeune homme de 25 ans qui circulait sur une trottinette est mort, percuté par une voiture. L'homme interpellé ce matin par la police bordelaise est le propriétaire du véhicule, mais on ignore encore s'il conduisait au moment de l'accident. L'ONG SOS Méditerranée cherche un port pour 104 migrants secourus vendredi en mer au large de la Libye et en appelle aux autorités européennes. Les autorités italiennes et maltaises n'ont pas fait de commentaires. SOS Méditerranée a sauvé plus de 30 000 migrants en mer en 4 ans. 4 ans de travail, un dossier d'un million de pages. L'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 se termine aujourd'hui. Les investigations des 5 juges d'instruction sont finies. Le parquet national antiterroriste a désormais un mois pour prendre ses réquisitions et annoncer la tenue d'un procès. 3 départements du sud-est de la France en vigilance orange, pluie, inondations et orages à partir de demain matin. Cela concerne l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Météo France évoque un épisode pluvieux orageux très intense. Tout de suite, Olivier Delagarde et ses invités pour la suite des informés.
20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Et toujours en compagnie ce soir de Saverio Rojec, journaliste politique de Paul Naon, ancien directeur des rédactions de France 2, France 3, cofondateur de l'émission Envoyé spécial, Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Télévisions, et puis Éric Chesson, président de l'ONG La Chaîne de l'Espoir, auteur de L'arrogance du bistouri, puisque vous êtes également chirurgien. Et on va maintenant passer à la politique, si vous le voulez bien, avec cette proposition choc du patron du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Il souhaite que soient interdites les listes communautaristes lors des prochaines municipales. Il va d'ailleurs déposer une proposition de loi en ce sens, proposition que ne votera pas Laurence Rossignol. Elle est sénatrice PS de l'Oise et on l'écoute.
D'abord parce que c'est très compliqué de dire ce qu'est le communautarisme dans un exercice électoral. Ces listes ne se disent pas listes communautaristes, elles disent listes citoyennes. Mmh. Voilà. Deuxièmement, parce que je ne crois pas qu'on défende les libertés qui sont menacées par le communautarisme incontestablement, mais en acceptant nous-mêmes de faire reculer nos libertés. C'est-à-dire que restreindre la capacité de se présenter aux élections, c'est restreindre l'exercice démocratique. Et je suis convaincue que c'est absolument inconstitutionnel. Donc je pense que la droite devrait arrêter.
Saverio Rojec, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? C'est quoi ? C'est une proposition crédible de la part de Bruno Retailleau ou bien un coup de communication politique ?
Électoraliste, vous voulez dire ?
Je vous laisse le choix du commentaire.
Je suis d'accord avec Laurence Rossignol. La proposition de loi en soi, si on regarde les équilibres politiques, n'a aucune chance d'aboutir, puisque ce sont les Républicains qui ont certes la majorité au Sénat, mais ça ne passera pas à l'Assemblée nationale. Par ailleurs...
Ça veut dire qu'il ne faut plus rien faire au Sénat, donc, à ce moment-là.
Par ailleurs. Ah. Ça veut dire quoi, interdire des listes communautaires ? Encore faudrait-il savoir ce que c'est une liste communautaire. En France, je le rappelle, dans notre pays, il n'y a pas de statistiques religieuses, il n'y a pas de statistiques ethnique, donc il n'est pas possible. Je veux dire, le gouvernement peut pas dire telle personne, telle liste n'a pas le droit de se présenter aux élections. Et heureusement, j'allais dire.
Éric Chesson.
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, il y a une espèce de perversité incroyable. Je trouve qu'il y a une hystérisation de tous les sujets. Et ces hommes politiques que je ne connais pas, mais j'imagine, ils lancent des mots magiques comme celui-là du Rassemblement National qui lance le voile. Alors, pendant 4, 5, 6 jours, on ne parle que du voile. Et là, en lançant le mot communautarisme, islamisme et autres, à chaque fois, c'est la même chose. Et moi, je pense qu'il faudrait apaiser le débat. Il faudrait un tout petit peu essayer d'appliquer les lois de la République et simplement ne pas lancer...
Mais attendez, est-ce que c'est pas un peu facile ? Est-ce que le communautarisme n'est quand même pas une menace pour notre société, pour notre démocratie ?
Le communautarisme, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. D'accord, il faut l'interdire. Mais quelle loi,
Comment peut-on déterminer ce qui est communautariste, une liste communautaire ou pas ? On ne peut pas aujourd'hui. Et le gouvernement, pour le coup, est d'accord avec ça. Il pense, et a raison, que la bataille, elle est plus politique que juridique. La bataille, elle va se jouer dans les urnes, et d'une certaine manière, elle va se jouer un peu comme avec le Rassemblement National, c'est-à-dire avec un front républicain contre ces listes.
Gilles Bornstein,
vous vous rappelez, enfin, vous, parce que nous sommes de vieux hommes maintenant, vous vous rappelez Paul Quillès qui avait dit, il ne faut pas dire qu'on va couper des têtes, il faut dire lesquelles et quand. Mais là, c'est exactement la même
1980,
chose.
1980, Congrès de Valence.
Exactement. Je suis d'accord avec vous. Bruno Retailleau, c'est exactement pareil. S'il veut faire sa loi, il doit dire sur quels critères il veut interdire ses listes et est-ce que c'est juridiquement possible.
Et on n'a pas le droit
Moi,
de faire
je
ça
pense
en
que
France.
Non. S'il ne le dit pas, c'est un coup politique. Voilà, c'est un coup politique et je pense, comme tout le monde autour de cette table, que c'est un coup politique. Alors, j'observe une autre chose.
Comme tout le monde, on ne sait pas. Paul Nahon ne s'est pas encore exprimé, Gilles Bornstein. Ce serait dommage de pas l'entendre.
Non, parce que Paul Nahon. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit.
Qui est visé par Bruno Retailleau? C'est l'Union des démocrates musulmans hein, qui ont réussi à recueillir 29 000 voix aux dernières
certaines
européennes,
listes
qui vont
communautaristes.
Une cinquantaine de listes dans certaines villes.
Certaines listes communautaristes, c'est quand même le poison de la démocratie. Certaines, pas toutes. Elles ont eu un effet extrêmement faible. Enfin, au niveau national, je crois que c'était 2%, hein, Gilles.
Non, 0,13.
1%.
6% à Maubeuge.
Et 6% à Maubeuge. Bon.
Et 40% dans certains quartiers. Bon. En fait, c'est sur certains bureaux de vote où c'est extrêmement important.
Au niveau national, effectivement, c'est marginal, mais sur certains bureaux de vote.
Mais
comme
nous
ne
l'aurons pas, certaines listes sont extrêmement dangereuses. C'est-à-dire que quand vous discutez avec eux, moi j'ai discuté avec certains d'entre eux, c'est mettre la loi islamique au-dessus de la loi républicaine. C'est effrayant. Quand vous entendez ces discours, c'est effrayant.
Et absolument.
Mais attendez,
attendez, laissez-moi finir.
Ah oui, je vous laisse finir, vous avez raison.
Mais nous sommes dans un état de droit. Quels sont les critères qu'il faudra appliquer pour interdire ces listes? Alors, c'est un capharnaüm terrible. Si on arrive là-dedans, c'est terrible.
Ça veut dire, Jacques, finalement, est-ce que tout de même, l'intérêt de cette proposition de loi, c'est pas de mettre, finalement, le débat sur la table et qu'on en débatte, hein. On en débat aux informés, on en débat partout, finalement.
Et de continuer à parler du voile, de l'islam, comme tous les alors, là, deux
parle,
jours dans notre pays.
Mais on parle du communautarisme, cette
idée, elle n'est pas défendue que par Bruno Retailleau. C'est Xavier Bertrand, le premier, qui en a parlé. Yannick Jadot l'a également repris à son compte. Donc voilà, il faut aussi... Elle est partagée par plusieurs personnes dans le spectre politique actuel. Mais néanmoins... Voilà, le gouvernement pense encore que le combat ne se situe pas là. Le combat, il a raison, le combat n'est pas juridique. Le combat, il est politique ces listes-là, il est politique.
J'imagine déjà les commentaires et sur les réseaux sociaux en disant aux informés, finalement, vous n'invitez que des gens qui habitent les beaux quartiers, qui
mais
ne
non,
savent
mais
pas,
on pas dans le déni.
Ce qu'est la réalité du communautarisme.
On a dit que c'était le poison de la démocratie.
On n'a pas dit ça.
On a dit que c'était le poison de la démocratie.
Je ne vais pas vous parler des beaux quartiers, mais je vais vous parler de certains pays où je vais. Je pense à l'Afghanistan et je pense à quelques-uns d'autres où nous sommes présents à la Chambre de l'Espoir. Et moi, je vais vous dire ce que c'est que de vivre dans un endroit où la loi religieuse est au-dessus des lois républicaines. C'est l'enfer. Et je crois qu'il faut arrêter de jouer avec l'opinion et d'essayer de... oui, quand je disais tout à l'heure hystérisé, je le pense profondément. Les gens ou la personne qui a lancé ce débat, c'est parfaitement ce qu'elle provoque. Pendant une journée, deux journées et autres, elle sera en tête de l'affiche et c'est reparti. Et je crois que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour tous nos amis musulmans, pour nos amis d'autres religions. Nous pouvons et nous avons les lois pour vivre ensemble. Mais il faut arrêter d'avoir des poils à gratter qui à chaque fois font mal et ils savent exactement ce qu'ils font.
Allez, on range le débat, mais malheureusement, je pense qu'il sera dérangé à nouveau. 20h40, ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce lundi, Maureen Suignard.
Le centriste Benny Gantz, chargé ce soir par le président israélien de former un nouveau gouvernement. Sur le réseau social Facebook, le premier ministre Benjamin Netanyahou dit qu'il renonce à cette mission. Tâche difficile tant les résultats des élections législatives de septembre dernier sont serrés. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU appelle au dialogue immédiat au Chili. Le bilan des émeutes qui secouent le pays s'est alourdi aujourd'hui, 11 morts. Les manifestants réclament plus de justice justice sociale. Les étudiants appellent de nouveau à descendre dans les rues aujourd'hui. Le président estime que le pays est désormais en guerre. En France, le corps d'un étudiant en école de commerce de 24 ans retrouvé à Rennes. Les policiers l'ont repêché dans la rivière de la Vilaine. Le jeune homme était porté disparu depuis une soirée vendredi soir. Une autopsie sera pratiquée demain. Du fumier devant la préfecture de Belfort, une première action des agriculteurs qui annonce la mobilisation de demain. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent au rassemblement. Ils estiment que l'on ne respecte pas suffisamment leur profession et ils dénoncent les arrêtés anti-pesticides pris par certains maires. Prudence dans plusieurs départements français. L'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange dès demain matin 8h. Alerte aux orages, aux pluies et aux inondations.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Merci pour ce moment, mais ça aurait pu être plus utile. Je vous rassure, c'est pas la suite du livre de Valérie Trierweiler, mais peut-être comme cela qu'on pourrait résumer la première évaluation du service national universel qui a été créé en juin dernier. Vous savez, ce stage qui remplace peu ou prou le service militaire. 2000 volontaires de 16 et 17 ans auront été les premiers à tester ce nouveau dispositif. Et si la quasi-totalité auront effectué ce service durant toute sa durée, ils sont quand même extrêmement nombreux, selon cette évaluation, à pointer du doigt un emploi du temps trop dense et trop disparate. Vous allez en débattre. Je vous propose d'abord d'écouter la satisfaction de Gabriel Attal. C'est le secrétaire d'État chargé notamment de la mise en place de ce CNU.
Ce qui ressort, c'est que 94% des jeunes ont dit qu'ils étaient satisfaits de l'expérience, ce qui est positif. Pour tous les jeunes, il y a eu surtout un bilan de santé complet qui a été effectué. Et on a détecté des pathologies qui n'avaient jamais été détectées auparavant. Le dépaysement, ça a aussi été un moyen pour les jeunes d'aborder des questions qui touchent à leur santé. C'est pour ça qu'il y a la question de la fragilité qui a été évoquée, comme vous venez de le dire. Mais sinon, sur les emplois du temps, oui, c'est vrai qu'il y a eu des emplois du temps denses, qu'il y a un juste équilibre à trouver. C'était une phase pilote. Elle visait à tester notre organisation, à tester un certain nombre de modules qui seront peut-être pas retenu sur la suite. Évidemment, l'emploi du temps, ça fait partie des choses qui vont être adaptées dans la montée en puissance du SNU. Alors...
Ça va rire, Jacques. Je vous vois très amusé par Gabriel Attal. Pour quelle
raison ? Non, parce que visiblement, il y a un problème d'emploi du temps. Comme le dit Gabriel Attal, effectivement, 70% des jeunes, vous l'avez dit, hein, qui ont participé à cette première phase du SNU, disent que l'emploi du temps était trop chargé, que les modules étaient visiblement trop disparates. Mais au-delà de ça, moi, je suis assez perplexe sur le service national universel dans son ensemble.
Expliquez-nous pourquoi.
Quand ça a été mis en place, on a beaucoup parlé d'une coquille vide, etc., etc. Effectivement, je trouve que l'intention...
Alors, visiblement, est un peu trop pleine, là, mais bon...
Non, mais je pense que l'intention, sur le papier, elle est louable. Inculquer le respect, le civisme aux jeunes, bien sûr, c'est formidable, et bien sûr que pourquoi pas. Dans la pratique, je vois pas trop à quoi ça sert. Visiblement, c'est ce qui ressort aussi de cette enquête et des premières réactions de ces jeunes. La plupart des activités qu'on leur a fait faire, eh bien, il se trouve qu'elles sont déjà prévues dans les programmes de l'éducation nationale, que ce soit l'apprentissage des gestes de premier secours, que ce soit le sport. Voilà. Donc, il y a effectivement, on se retrouve un peu avec ce qu'on disait déjà au départ quand ça a été mis en place, c'est-à-dire cet aspect un peu coquille vide.
Ça sert à quelque chose, à votre avis, Eric Chasson ?
Mais sûrement, moi je trouve ça extrêmement utile, absolument formidable et autre. Mais
trouvez ça formidable.
Non, mais enfin, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable d'arriver à dire ce qu'on a entendu. Pourquoi ?
Ouais, parce que c'est autre chose.
Bah oui, parce que je vais vous dire, quand on fait un bilan, soyons précis. Moi, j'ai publié des choses et un scientifique, il y a des bases. D'abord, on publie sur 2000 qui ont fait genre 3 semaines, 1 mois. Alors, et on veut.
Attendez, ils n'ont été que 2000.
Oui, ils ont été que 2000 sur 1 mois et on a étudié si c'était pas trop dur, etc. Mais
c'est le principe du test en même temps.
Oui, mais enfin,
même les scientifiques ont.
Non, les scientifiques docteur, jamais les scientifiques ne procéderaient comme ça. Pourquoi ? Bah parce que c'est 2000 volontaires et on veut aller sur 800 000 obligatoires. Mais excusez-moi, c'est complètement différent entre dire « est-ce que tu veux venir dîner chez moi ?» ou « t'es obligé de venir et manger le raffia que je t'ai fait ?» C'est complètement différent.
Bon, Gilles Bornstein, remettez-moi un peu d'ordre dans ce débat.
Non, moi, pareil, on est assez consensuel. Ce soir, je trouve ça très bien. Il se trouve que j'ai écouté Gabriel Attal ce matin. Alors, il expliquait que
c'était sur France Info.
Sur France Info, évidemment.
D'excellentes habitudes.
Exactement. expliquait que ça permettait de dépister un certain nombre de maladies, qu'ils apprenaient la Marseillaise, qu'ils faisaient tout un tas de choses qu'ils ne faisaient pas chez eux. Très bien. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ce sont effectivement des missions que d'autres organismes de la République doivent faire. Alors, font mal, peut-être, mais fallait-il créer cette espèce de truc vite poche de « il n'y a pas assez de civisme, on n'apprend pas la Marseillaise, un certain nombre de problèmes de santé ne sont pas dépistés, et il y a un certain nombre de gamins qui n'arrivent pas à parler et qui, là, trouvent, puisque c'est dépaysé, comme l'a dit Gabriel Attal, un moyen de parler. » Tout cela, c'est très bien. Ça coûte 1,5 milliard d'euros par an. Nous avons un gouvernement qui pourchasse...
Et quand vous le divisez par 2000, ça fait combien?
Non, ça en année pleine. Je crois que ça coûtera, prévu que ça coûte en année pleine. Ça sera pas sur 2000.
Non, j'espère.
Bon, on est quand même dans une période où les ressources budgétaires sont rares. Il manque des postes et de l'argent absolument partout. Aux urgences, dans les minima sociaux, chez les policiers, à la SNCF, dans la justice. Je me demande si, parce que c'est quoi? C'est une promesse du président de la République, dont il, comme c'est l'homme qui fait tout ce qu'il a dit dans son programme, il n'avait pas envie qu'on dise qu'il y renonce. Donc fallait-il, pour qu'il ne renonce pas à une promesse électorale, dépenser 1,5 milliard d'euros, et à mon avis, ça sera plus...
Poser la question, c'est y répondre.
Voilà, exactement, vous avez raison.
Vous en pensez quoi?
Moi, je pense que c'est très bien. Mais il faudra faire le bilan dans quelques années. Si ça continue, parce que ça coûte très cher, comme l'a dit Gilles.
Très cher. Oui.
Alors, je vais être un peu iconoclaste. C'est un formidable coup de chapeau à Jacques Chirac.
Alors là, expliquez-moi pourquoi. Parce que Jacques Chirac, c'est celui qui a quand même mis un terme au service.
Et qui a fait une armée militaire. Heureusement que ces jeunes ne vont pas sur les théâtres d'opération. Parce que depuis quelques années, tous les théâtres d'opération...
Il n'y allait pas. Depuis la guerre d'Algérie, il n'y a plus... Depuis la guerre d'Algérie...
Le Mali, l'Afghanistan, le Liban...
Il n'y a plus un appel qui allait au combat.
D'accord, mais c'est une armée professionnelle maintenant qui se bat et qui fait le Mali, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, etc., etc. Et je vois mal ces jeunes, au bout de quelques mois, partir sur les théâtres d'opération, même si certains voulaient se perfectionner.
L'armée n'en voulait pas, de toute façon.
L'armée n'en voulait pas.
Ça veut rien, Roger. À votre avis, à terme, on va avoir toute une classe d'âge qui va être intégré dans ce service national universel. Classe d'âge, ils l'ont rappelé, c'est 800 000 personnes.
Je ne sais pas, il faudra voir si Bercy, j'allais dire, laisse les robinets ouverts, parce qu'effectivement, ça coûte très cher.
Un milliard et demi.
Si ce n'est 2 milliards en année pleine. Mais effectivement,
c'est une bonne raison de dire ça coûte cher, donc on ne le fait pas. On peut se dire que si c'est quelque chose de très bien...
Il faut qu'il y ait des résultats. Si c'est pour leur apprendre à faire du sport et les gestes de premier secours ou à chanter la Marseillaise, je pense que l'école de la République, elle est là pour ça aussi.
Moi, j'ai entendu des interviews de jeunes soldats, enfin de jeunes appelés là-bas, pardon, pas soldats, qui revenaient enchantés de leur expérience. Alors, c'est vrai qu'on les a
un peu
bousculés.
Si
vous jouez au foot, ils sont contents aussi.
Je trouve que c'est très bien. C'est une très belle initiative.
Et vous, le médecin de la bande, là, vous êtes jaloux de voir ces centaines de millions qui échappent à vos hôpitaux
Non, pas du tout, parce que je pense que si
vous
c'était...
Vous avez grand cœur, vous.
Oui, mais il y a aussi le réalisme. Je pense que dire qu'on va les envoyer dans le monde associatif qui en a besoin est une quelque chose de tout à fait positif.
Oui, mais c'est parce que chacun
la réalité est bien autre. Parce que prendre 800 000 jeunes, parce que le monde associatif s'est terriblement professionnalisé. Et ça va être une charge extrêmement
dure.
Donc
vous, à la chaîne de l'espoir, vous n'allez pas courir derrière pour prendre des jeunes en stage.
Je préférais, si vous trouvez des médecins, des anesthésistes, des gynécos...
Alors là, je crois qu'il n'y en a pas parmi ces jeunes de 16-17 ans.
Pas encore.
Il est 20h50, on se retrouve juste après un tour complet de l'info présenté par Maureen Suignard.
La circulation des trains express régionaux avec un seul agent à bord, c'est ce que réclame l'inspection du travail d'Alsace. C'est une information France Info. Une demande observée de près puisqu'elle intervient après un accident la semaine dernière en Champagne-Ardenne. Le conducteur était seul, cela a entraîné de nombreuses suppressions de trains, les cheminots exerçant leur droit de retrait. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire se félicite de l'accord trouvé entre les salariés de Belfort et la direction de General Electric. Un peu plus de 300 postes sont
sauvegarder, le groupe prévoyait d'en supprimer près de 800. En échange, les salariés renoncent à certains de leurs acquis sociaux. Benjamin Netanyahou ne parvient pas à former un gouvernement en Israël et renonce. Il l'annonce sur son compte Facebook ce soir. Le président charge donc son rival, le centriste Benny Gantz, de le faire. Tâche qui s'annonce très compliquée. Les dernières élections législatives en septembre sont très serrées. La 1500e victoire de Roger Federer, le tennisman suisse l'emporte au premier tour. En plus, c'est chez lui au tournoi de Bâle. En 53 minutes seulement, il brigue un 10e titre. Et puis du football, France Info vous révèle ce soir les premiers noms des joueurs nommés pour le Ballon d'Or. C'est en partenariat avec France Football. Les prix seront remis le 2 décembre prochain à Paris. Le néerlandais Van Dijk, l'attaquant parisien Kylian Mbappé ou encore l'américaine Megan Rapinoe. La nouveauté d'ailleurs cette année, c'est la création d'un trophée dédié aux gardiens.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et il n'y a pas de trophée pour récompenser les arbitres, c'est peut-être dommage. On va maintenant, et pour clore cette émission, parler de la photo qui fait scandale. Enfin bon, tout est quand même extrêmement relatif. Je ne sais pas si vous vous intéressez au rugby, mais sachez qu'en ce moment, la Coupe du Monde se déroule au Japon, et qu'hier, la France a été éliminée en quart de finale face au Pays de Galles. À la suite, elle a perdu d'un point, et puis elle a surtout perdu parce que l'un de ses joueurs a donné un coup de coude dans la figure d'un de ses adversaires qui ne se fait pas, même au rugby. Il a donc été exclu. Tout cela, jusque-là, pas de problème. L'affaire, effectivement, aurait pu s'arrêter là. Sauf que quelques heures plus tard, l'arbitre du match, Jaco Pepper, un Sud-Africain, s'est retrouvé pris en photo, hilar, au milieu d'une demi-douzaine de supporters gallois, tous en train de mimer ce fameux geste de coude de Sébastien Vahamina. Est-ce que tout cela, quand même, Paul Naon, je me tourne vers vous, qui est une figure tutélaire de cette profession, est-ce que tout ça ne fait quand même pas un peu désordre?
Ça fait un peu désordre, surtout pour l'arbitre.
Ah bah,
ce que faisait l'arbitre à cette heure-ci, dans une heure très avancée de la nuit, avec les supporters en plus gallois. Ça, c'était terrible.
Ah, en plus, il n'allait pas être avec les supporters français, parce que là, il ne serait pas couché tard. Hein.
Mimant le geste de l'international français. Parce que moi, j'ai vu tout le match, j'étais absolument passionné, parce qu'il s'est passé à un point près. Et le dernier essai était extrêmement tangent.
Litigieux.
Très litigieux.
Et Eric Chesson?
Mais il n'y a pas mort d'homme, hein.
Ah oui, non, mais voilà. Je pense que tout le monde peut refaire le match, sauf l'arbitre, et il doit rester au-dessus de la mêlée. Et je pense que c'est une grosse erreur. Il n'aurait pas dû se faire prendre comme ça.
L'arbitre est neutre.
Il doit rester neutre.
Roger a très envie de s'exprimer sur ce sujet.
J'ai plein de choses à dire. Je suis un spécialiste de rugby. Non, mais effectivement, un arbitre est tenu à un devoir de réserve. Maintenant, je sais pas, je regarde ça comme ça. C'est pas non plus, ça me semble pas si grave que ça. On a entendu Bernard Laporte qui réclame une lourde sanction.
Laporte, c'est le président de la Fédération française de rugby, effectivement.
Non, mais à mon sens, ça relève plutôt de la mauvaise plaisanterie. Il faut remettre, on l'a dit, hein, l'image dans le contexte. La photo a été prise à 1h30 du matin dans un bar.
Ça vous scandalise pas que l'arbitre d'un match aille fêter la victoire
il y a une photo qui est prise.
Il a été pris en photo.
Voilà. C'est fou.
Non, le coup de coude était terrible, hein.
Voilà.
Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que le coup de coude sur le tas, pendant le match, a été montré une dizaine de fois.
C'était horrible.
Donc, la télévision, aussi... là, vous mettez des caméras partout, il faut
Mais c'est vous qui mettez des caméras. C'est les journalistes qui mettent des caméras partout.
C'est vous, Paul Naon, le patron de tout ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Gilles Bernstein? C'est pas si grave.
Ce qui est grave, c'est qu'on ait perdu le match. Ça, j'ai trouvé ça grave parce que moi aussi.
Surtout qu'on avait très bien joué.
Ah ben voilà. Et puis surtout que à partir du moment où on a vu le coup de coude, je pense que tout le monde, en une demi-seconde, on s'est fait le scénario. Ben, il va prendre un rouge. Une mi-temps à 14, c'est compliqué. On va tenir un petit temps.
Perdu.
Et puis
on va perdre d'un point.
On va perdre quelques points dans les dernières minutes. Ouais. Et ce qui est exaspérant, c'est que ça s'est passé exactement comme on se l'est tous dit en un dixième de seconde.
Et c'était un très beau match du côté des Français.
Éric Chesson, est-ce que quand même, nous autres Français, on se cherche pas toujours quelque part un peu des excuses?
Ah non, il n'y a pas d'excuses, là.
Un peu, mais moi,
c'est le répondre.
Il
vous empêche de parler, hein, vous remarquez. Hein.
Non, mais je vois le drame qu'a vécu Paul, et il est prêt à... Enfin, il nous parle d'un drame international face à cet arbitre qui, quelque part, nous a fait un pied de nez. J'avoue que je trouve ça assez mignon.
C'est pas un pied de nez, c'est une mauvaise
plaisanterie,
une mauvaise photo. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il s'est un peu laissé aller. Il était 1h30 du matin. Il fêtait son 50e match international.
Ouais, ça, c'est vrai. Elle a travaillé. Ça,
moi, j'ai travaillé. Ouais. Je suis une grande spécialiste de rugby. Donc.
Et à mon avis, il n'y a plus de...
Dans ce métier, le travail paie, ça veut rien.
Non, mais voilà, franchement, de là à demander des sanctions comme Bernard Laporte demande...
C'est ridicule.
Non, il n'y a pas que Bernard Laporte qui demande... Il n'y a pas que il y a la Fédération internationale.
Non, mais contre ce que je pense, c'est l'arbitre, évidemment. Il y a d'autres problèmes.
Ils veulent savoir. Évidemment, bien sûr qu'il y a une enquête. Il va y avoir des.
Donc ils veulent savoir s'il était là par hasard et qu'il a été.
Non, ils veulent savoir d'abord si la photo, n'a pas été truandée. Si la photo n'a pas été truandée. Ensuite, ils vont prononcer les sanctions. Mais le match était formidable.
Voilà.
Bon.
Non mais voilà, et puis je pense qu'il y a d'autres problèmes plus importants qui concernent le sport, les stades, les supporters. Voilà, on les connaît.
Mais
tous.
Moi j'en reviens quand même. Voilà. Est-ce qu'on se cherche des Est-ce que nous on n'aurait pas
Il y a des problèmes
propension...
plus importants que ce genre d'affaires, pardon.
On n'aurait pas cette propension à se chercher des excuses. Alors vous étiez bien trop jeune pour connaître ça, mais les poteaux carrés qui ont empêché
76 Glasgow.
Bravo Gilles Bornstein, qui ont empêché Saint-Étienne de gagner.
Là, je me sens très en minorité en tant que femme dans cette
On a toujours
une jeune, surtout en tant que jeune.
On a l'impression qu'il nous arrive toujours des trucs quand même. Et qu'on trouve toujours des excuses.
Mais on n'a pas mis en cause l'arbitre. Non. C'est pas à cause de l'arbitre qu'on a
quand
perdu.
Quand même un peu.
Ah non.
Ah bah là, non, ça laisse planer. Ça laisse planer quand même un peu de suspicion. D'ailleurs,
oui,
vous dites que le dernier essai est
litigieux.
Il
est
un peu litigieux, c'est tout. Mais c'est pas l'arbitre qui est en cause.
On ne va pas refaire le match, pour reprendre l'expression d'un confrère qu'on salue là où il est. Les informés. C'est terminé pour ce soir. Merci à vous quatre, Saverio Rojec, Paul Naon, Gilles Bornstein. Et merci à vous, Éric Chesson. Hein. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'arrogance du bistouri, un livre où vous égratignez un petit peu votre profession de chirurgien, puisque vous êtes chirurgien et à la fois président de l'ONG, la chaîne de l'espoir. Les informés sont terminés, mais l'info continue sur France Info.